I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et si nous comprenions les bases de l'entraînement pour mieux courir et progresser? Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course, de trail, de mouvement, de reprise du sport, du bonheur que ça nous procure de bouger notre corps et de retrouver du mouvement. Et vous savez que mon objectif avec ce podcast, c'est de vous aider à courir, à progresser, à vous donner des objectifs, à atteindre vos objectifs, à vous dire que c'est possible et à être fier quand vous l'avez fait. Et pour parvenir à tout ça, et ben, c'est bien d'avoir des gens qui nous donnent des clés pour mieux comprendre comment la course fonctionne, comment l'entraînement fonctionne, comment nous pouvons progresser, vraiment progresser. Il y a environ un mois, j'avais invité Pascal à venir parler de son ménisque. Alors vous vous rappelez, Pascal, dans l'épisode 89, il m'avait expliqué son opération, il m'avait rassuré, il m'avait dit ensuite comment il avait progressé, et puis il avait donné quelques astuces d'entraînement. J'ai eu de nombreux retours sur cet épisode, vous avez adoré Pascal. Certains d'entre vous m'ont dit, bah moi j'ai écouté l'épisode avec Pascal et puis je suis parti courir, j'ai appliqué ses conseils immédiatement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai invité pour deux autres épisodes. Aujourd'hui, dans l'épisode, nous allons parler des bases de l'entraînement et de la progression. Il est plutôt orienté débutant, mais pas que, parce que vous allez voir qu'il y a de nombreux conseils. Et dans quelques semaines, nous allons voir avec Pascal comment allonger les distances, aller vers le 24 heures et l'ultra. Donc avec ces épisodes, vous aurez vraiment une vision globale. Pourquoi je le fais avec Pascal? Parce que Pascal est un coureur de longue distance qui adore s'occuper des débutants et les faire progresser. Alors si vous n'avez pas écouté l'épisode 89, je vous rappelle que Pascal est un coureur expérimenté, est un coureur aussi de longue distance. Alors il a fait toutes les distances que vous pouvez imaginer, mais il a aussi fait des courses à étapes, il a fait la Diagonale des Fous, le Marathon des Sables, il a fait de nombreuses courses, des dizaines de courses qui sont bien plus longues que des marathons, mais il est aussi entraîneur et il m'a dit qu'il adorait s'occuper des débutants et les faire progresser, de les prendre comme ça quand ils arrivent, qu'ils veulent progresser un petit peu et de leur donner ses conseils. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai posé des questions pour mieux comprendre comment s'entraîner quand on débute et que l'on souhaite progresser, par quoi on commence, hein, qu'est-ce qu'on doit prendre comme bon réflexe, qu'est-ce qu'on doit éviter aussi, et puis quelle est la progression qu'on peut se mettre en tête, hein, si on se dit bah, je voudrais courir un marathon, je voudrais allonger un petit peu les distances, au bout de combien de temps on peut le faire. Alors ça nous a amené à parler de beaucoup de sujets, nous avons parlé de l'échauffement, de l'adaptation du corps, de la progression que l'on peut envisager à quel rythme, de l'acide lactique, de la récupération, de fréquence cardiaque, de VMA, de plan d'entraînement, de vitesse à entraînement, de fractionner et de plaisir, parce qu'on a aussi parlé de frustration, de sentiment de n'arriver pas arriver à s'entraîner comme il faut par moment, et donc Pascal nous a donné toutes ses astuces sur vraiment cette vision de la course, de comment on s'entraîne, de comment on aborde l'entraînement et de comment on peut progresser. Et avant de vous laisser avec ma discussion avec Pascal, je voudrais vous donner deux petites nouveautés. La première, c'est la lettre. Tous les mercredis, c'est une lettre que vous recevez par mail avec des liens complémentaires sur la course, le sport, le mouvement. Ça peut être des vidéos que j'ai pu voir, ça peut être d'autres podcasts que j'ai pu écouter, des livres que je suis en train de lire, des compléments aux épisodes que je diffuse. Bref, tous les liens qui seront intéressants pour compléter. Il y a une adresse pour vous inscrire, c'est km42.run/lettres, et que vous aurez un petit formulaire d'inscription, vous verrez aussi les anciennes lettres, et comme ça vous pourrez vous abonner. L'autre nouveauté, c'est le Hamsters Running Show. Alors là, c'est un live le jeudi soir sur YouTube à 21h. L'esprit, c'est de discuter d'un sujet avec un petit peu de mauvaise foi, un petit peu aussi de questionnement, et puis voilà, de se dire, bah, finalement, qu'est-ce qu'on doit penser de l'actualité du running, qu'est-ce qu'on doit penser sur quel sujet. Par exemple, est-ce qu'il faut absolument courir un marathon, comment on prépare des offres, des choses comme ça. Mais vraiment de le faire sur un ton vraiment décontracté et en complément de ce qui se dit aussi sur le podcast. Alors pour découvrir ça, c'est facile, vous allez sur la chaîne YouTube du Hamsters Running Club, vous faites km42.run/YouTube et vous allez être redirigé directement sur la chaîne, sinon sur YouTube, vous cherchez Hamsters Running Club et vous trouverez la chaîne et vous verrez les lives sont annoncés avec une belle petite bannière comme ça et vous pouvez vous inscrire et mettre la cloche pour être prévenu du prochain live. Voilà, pour le reste, vous avez l'habitude, hein, que ce soit le hashtag KM42Podcast, que ce soit Patreon, que ce soit le Hamsters Running Club, la communauté, vous avez tous les liens dans les notes de l'épisode et maintenant il est temps de partir courir avec Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Ben, ma foi, il fait beau, alors ça va super.
Eh ben écoute, oui, c'est un temps parfait pour aller courir, et puis ça annonce un peu le printemps, et on avait dit il y a quelques temps qu'on se reverrait aujourd'hui pour un épisode dans lequel on parlerait, je l'ai appelé, les bases de l'entraînement, comment progresser, comment débuter, comment s'améliorer. Ça te semble pas mal comme programme?
Écoute, c'est déjà pas mal, hein. Il y a de quoi faire une heure. Hein.
Oui, eh ben oui, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler un petit peu qui tu es pour ceux qui découvriraient le podcast ou qui te découvriraient par le biais de cet épisode et rappeler que notamment, tu es entraîneur.
Oui, depuis 25 ans à peu près. Et j'affectionne particulièrement les débutants.
Et pourquoi?
Alors, pourquoi les débutants? Ben, écoute, en fait, c'est assez rigolo de voir les gens progresser et ça, on voit beaucoup plus facilement les progressions sur les débutants. Après, également, les gens qui n'ont jamais eu d'entraîneur, on les voit, quand on les fait progresser par les entraînements, on le voit aussi, hein, de toute façon, c'est flagrant. Mais c'est valorisant de faire progresser les gens.
Oui, mais je suis d'accord avec toi, parce que c'est aussi ce que je fais moi dans mon métier de coach, en podcasting, en création de contenu, etc. D'avoir des gens qui partent de zéro ou qui n'ont jamais eu d'accompagnement, d'arriver à les faire progresser. Et tiens, je me dis, ça me permet de lancer un peu la discussion, cette histoire. Quelqu'un qui n'a jamais eu d'entraînement, mais qui, tu vois, qui court un petit peu, et qui vient comme ça, par exemple, pour trouver un entraîneur, qui peut venir en club, etc. Est-ce que tu vois des points communs, des caractéristiques, quelque chose de particulier qui tu te dis, ah là tout de suite, ça je sais qu'il a besoin d'être aidé sur un truc, quelque chose qui revient régulièrement, tu vois, un défaut classique j'ai envie de dire.
Ah oui, le défaut classique des débutants, je vais commencer par quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire peut-être, c'est la foulée des bras. On parle souvent de la foulée naturelle des jambes. Mais en fait, le défaut classique, c'est la foulée des bras. Les gens qui sont très tendus sur le haut, avec les poings au-dessus des coudes, etc. Donc ça, oui, ça fait partie des classiques.
Mais oui, mais d'un côté, moi, je vais te dire, moi, personne ne m'a expliqué, tu vois, ou personne ne nous dit qu'on doit courir avec les bras, en fait.
Non, c'est vrai. Mais je vais faire un parallèle. C'est, par exemple, quelqu'un qui va faire du ski tout seul, il va arriver à faire du ski tout seul. Mais il va être vite bloqué dans sa progression parce qu'il n'a pas la technique pour aller plus loin. Dès que la neige devient un peu différente, ben c'est cuit. Il est obligé de rester sur des standards qui sont assez contraints. Ben, la course à pied, c'est un peu pareil en fait. Hein. À un moment donné, tout le monde sait courir, tout le monde sait mettre une paire de baskets, va trottiner, mais dès qu'il va sentir qu'il va mieux et qu'il veut progresser, ben, il va se retrouver coincé dans sa progression.
Qu'est-ce qui nous coince en général à ce stade-là, en fait?
Qu'est-ce qui nous coince? En fait, il y a beaucoup de défauts qui se créent, des défauts parasites au fur et à mesure qu'on accélère et qu'on va de plus en plus vite, où on a un corps qui ne va pas fonctionner en harmonie dans le sens de la direction où on va. On va avoir des gestes parasites. Ce qui crée des tensions, ce qui va créer des blessures.
Oui, et moi j'avais aussi un geste, moi j'allais vers le haut, au lieu d'aller vers l'avant aussi.
Oui, alors vers le haut, c'est moins gênant que vers l'arrière. Mais bon, ça c'est facile, il suffit de mettre les bras comme il faut et ça va se faire automatiquement derrière.
Mais tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que ça fait partie des choses que je vois souvent, les photos qu'on voit sur Instagram, c'est les vidéos. J'appelle ça un peu les coureurs gazelles, tu vois, qui on a l'impression qu'ils sont très hauts, très aériens, etc. Alors que finalement, quand on court, l'important c'est surtout la propulsion, d'avoir son énergie pour aller vers l'avant et pas aller vers le haut, pas aller sur les côtés.
Tout à fait, absolument. Ou enfin, c'est peut-être parce que les gens se prennent en photo ou en film, donc ils ont une posture qui n'est pas forcément celle qui leur est naturelle.
C'est ce que je dis aussi, c'est pour ça que je dis attention, méfiance à toutes les photos qu'on voit, qui sont toujours très belles, etc. C'est comme la muscu, tu sais, ceux qui prennent la pose, on a l'impression que tout est parfait, puis dès que tu changes un peu l'angle ou l'éclairage, il y a toujours un petit truc qui... La réalité des choses, et surtout quand on court, bon, la réalité, elle nous rattrape vite, hein, c'est que dès qu'on fatigue un peu, les positions telles qu'on a dans la tête, tout d'un coup, ça change, quoi. On revient à son naturel de son corps, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est vrai, tout à fait. Alors bon, on était parti sur qui j'étais.
Oui, bon, on est parti vite hein, comme ça, mais c'est le défaut des débutants, tu sais, on part vite, toujours trop vite.
Ouais, tout à fait, absolument. En fait, bon, j'ai une expérience dans la course à pied qui date d'une quarantaine d'années, avec une spécialisation dans l'ultra, on va dire. Donc, voilà, j'essaye de mettre à profit mon expérience de coureur avec mon expérience d'entraîneur. Et puis voilà, si je peux faire grandir les gens et les faire progresser par ce biais-là, ça me va très bien.
Alors, on fera un jour un épisode sur justement comment on va vers les distances ultra, comment on s'entraîne, etc., quand on est déjà plus aguerri. Mais il y a quand même une question, tu vois, qui me titille un peu quand tu me dis ça, c'est de me dire en combien de temps quelqu'un qui n'a jamais couru peut aller vers des distances qui sont de l'ultra, tu vois, aller vers ces distances-là. Quelles sont un peu les étapes, tu vois? On va dire, si on faisait une feuille de route, quelqu'un qui se dit comme ça, j'ai envie de courir et puis j'imagine bien, je veux partir à l'aventure. C'est quoi la feuille de route qu'on lui donne en fait? Peut-être pas en question de temps, mais en grandes étapes à, j'ai envie de dire, à valider.
Alors, je ne vais pas y répondre directement. Indirectement, je vais commencer par quelque chose qui me tient à cœur pour pouvoir aller dans les très grandes distances. En fait, pour pouvoir y aller, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas se blesser. Ça, c'est la priorité absolue, c'est de dire il faut que je puisse courir, 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 courir dans le temps. Et pas avoir d'arrêt de 6 mois, 1 an, parce que d'abord psychologiquement c'est très mauvais, et puis c'est pas spécialement génial. Et je prends toujours une anecdote qui est de dire un coureur, enfin quelqu'un qui n'est pas coureur, mais qui a une petite activité physique, que ce soit dans n'importe quel sport, et qui veut se mettre à la course à pied, en fait son corps, c'est un peu comme un poulet d'élevage. C'est-à-dire qu'un poulet d'élevage, non, oui, un poulet d'élevage, en fait, il va être tout mou, son corps. On est capable de manger les os, on est capable de manger les tendons, tellement tout ça, c'est mou. Et l'idée, c'est si on fait travailler dur un poulet d'élevage, les os vont se déformer, le cartilage va s'abîmer, les muscles vont se distendre, et en fait, il va se blesser. Et donc, avant de demander un effort important à un corps, on va d'abord essayer d'y aller tout doucement pour que ce poulet d'élevage devienne un poulet de basse-cour qui va être totalement renforcé au niveau des articulations, des tendons, etc. Et une fois qu'il va être solidifié, on va pouvoir lui demander des efforts. Et le corps se forge à la pratique d'activités sportives qu'on fait. On n'est pas haltérophile. On ne naît pas avec des biscottos comme ça et des carrures comme ça. C'est pas comme ça. Ça se fait avec le temps. On va forger son corps à l'activité physique qu'on va avoir. Et à partir de là, on lui demandera forcément des charges improbables pour nous. Un mec qui soulève 500 kilos de fonte, voilà, pour le commun des mortels, c'est pas envisageable, naturellement, on va lui faire. Voilà. Ben, dans la course à pied, c'est pareil. En fait, il faut que le corps se forge à la course à pied. Et pour moi, pour devenir un poulet de basse-cour, il faut 3 ans.
D'accord.
Et donc, on en arrive à la réponse à la question, c'est de dire, quelqu'un qui veut se lancer sans. Pour garantir l'avenir sans blessure ou sans trop de blessures, s'il ne fait pas trop de bêtises, il lui faut au moins 3 ans. Il est raisonnable. On peut faire un marathon au bout d'un an. Ce n'est pas un problème. Je dirais même à la limite, on peut le faire au bout de 6 mois. Mais ça va être faire un marathon. Il n'y en aura peut-être jamais d'autres parce que le corps va être totalement abîmé. Donc il est la feuille de route, tu vois, c'est de dire de toute façon il faut 3, 4 mois pour commencer à faire sur quelqu'un qui n'a jamais fait d'activité sportive, qui sort de son canapé, on va dire, hein, pour résumer, avant de commencer à lui demander de faire un petit peu de fractionné ou très léger, etc., il faudra 3 à 4 mois. On peut le faire plus vite sur quelqu'un qui a déjà une activité sportive, quelqu'un qui a déjà fait du foot, quelqu'un qui a déjà fait du basket, du hand, etc. Bon, c'est pas du tout la même logique. Mais ce sont des... On peut dire qu'un sportif... Je vais prendre un... j'ai du mal à prendre un autre sport que le foot, parce qu'on voit tellement de footeux qui viennent se mettre. Mais un footeux, il aura une très bonne condition physique, notamment sur sa VMA. Par contre, ses groupes musculaires ne sont pas forcément les mêmes. Et s'il va trop vite, parce qu'il a la capacité d'aller trop vite et de progresser trop vite, en fait, il risque de se blesser.
Oui, oui, parce faut le dire, en fait, hein, la musculature est totalement différente. Et moi, je le vois au club, parce que moi, j'ai fait 11 ans de foot, 12 ans de foot, tu vois. Et donc, les gens, j'avais des gens au club, tu sais, qui regardent, ils disent, voilà, vous avec les grosses cuisses, les gros mollets, tu sais, les footeux, les rugbyman, on est réputés pour les grosses cuisses, les gros mollets et tout. Ils disent, ouais. Ça doit pousser dans les montées et tout. Et à chaque fois qu'un gars de rugbyman, on disait, oui, mais attends, nous, il faut qu'on le trimballe, on n'a pas la même... Certes, on a de la puissance, mais ça se fatigue vite et tout. Et puis même, je me suis rendu compte que ça provoquait même des blessures, puisque mon fameux syndrome rotulien, dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent, venait en partie de cette surmusculature, j'ai envie de dire surmusculature, ce déséquilibre provoqué notamment par le fait du foot, qui développe certains groupes musculaires qui ne sont pas les mêmes que ceux de la course.
Parfait. Tout à fait, mais on peut prendre la natation, on voit bien que les groupes musculaires ne sont pas les mêmes en fait. Hein. Donc même quand on, quand on a une activité sportive et qu'on change de sport, il faut se méfier. Donc les entraîneurs sont là pour tenir compte de ça aussi et pour faire progresser les gens. Derrière. Donc si je reviens au calendrier, on peut dire que raisonnablement un 10 km au bout de 6 mois, bon après ça dépend des vitesses, hein. On peut passer sur un semi 3-4 mois après en diminuant les vitesses par rapport au 10. Un marathon au bout de 2 ans c'est bien, 2 ans d'entraînement c'est bien, on peut toujours avant, au bout de 2 ans c'est bien, et un ultra... quand je dis ultra, on va dire entre 60 et 80 km au bout de 3 ans. Et puis après, une fois qu'on a déjà cette expérience de l'ultra sur 5-6 heures de course, bon, ça roule, hein, c'est fini. Après, on travaille autre chose, on travaillera plus sur la fatigue, entre autres.
Parce que, alors, tu vois, c'est une question que j'avais mis dans ma petite liste. J'ai mis que des questions de grands débutants, tu vois, mais vraiment les questions, vraiment grands débutants, hein. Je fais mon novice complet. J'ai envie de dire, au départ, quand on commence, tu vois, quand tu prends un débutant ou quelqu'un qui arrive un peu comme ça, on lui fait travailler quoi d'abord? Parce que, on parle des fameuses séances des 30-30, les fractionnés que tu trouves beaucoup sur les groupes de discussion de la course, etc. Mais, la personne qui veut courir au départ, j'ai envie de dire, il faut d'abord la faire courir. On travaille quoi en premier?
Oui. Avant de la faire courir, on peut aussi la faire marcher.
Oui.
Alors, on va dire que l'idéal de quelqu'un qui est un vrai débutant, c'est de se dire, bon, je vais faire une sortie de 20 ou 25 minutes et je vais alterner la marche et trottiner. Donc, je vais d'abord marcher pendant 10 minutes à un bon rythme et je vais essayer... suivant évidemment la capacité des gens, je vais essayer de trottiner, de voir, et surtout de trottiner lentement, en fait. L'idée, c'est pas de courir. Beaucoup de gens essayent de courir dès le départ. Non, l'idée, c'est de trottiner pour faire monter le rythme cardiaque, et puis d'essayer de le tenir 1, 2, 3, 4 minutes, en fonction du niveau des gens. Et en fait, c'est une forme de fractionner.
Oui.
Mais sauf qu'on fractionne à partir de la marche à pied. Donc on marche, on trottine, on marche, on trottine. On fait ça au départ pendant 20 minutes, l'idéal, puisqu'on part de quelqu'un qui a un corps encore un peu mou. Hein. L'idéal, c'est de le faire 20 minutes et d'augmenter de 5 minutes toutes les semaines. Alors, on va le faire 2 ou 3 fois par semaine au départ, si on a le temps et si on peut, c'est bien. on essaye d'avoir des jours. Alors, on essaye de ne pas les faire, je veux dire, lundi, mardi, mercredi, puis d'être tranquille 4 jours derrière. C'est de dire, je vais faire le mardi, le jeudi et le samedi ou le dimanche. Je vais faire ça 3 fois par semaine. Et puis, chaque semaine, je vais augmenter de 5 minutes mon temps d'activité. Jusque comme ça, pour arriver à peu près à 45 minutes. Toujours en alternant, en fait. Et une fois qu'on est capable de marcher, trottiner pendant 45 minutes, après, on change. Donc, ça va durer quelques semaines quand même. Hein. Faut pas essayer d'aller trop vite. Toujours cette notion de dire, je forge mon corps. Même si j'ai cette impression de facilité, malgré tout, il faut que je reste sage si je veux durer. C'est un choix. Et après, on va effectivement, au bout de 45 minutes, dire, dans ce cas-là, je vais essayer de trottiner dès le départ. 45 minutes d'affilée et puis je vais augmenter toujours de 5 minutes toutes les semaines. À partir du moment où j'arrive à trottiner une heure, on va pouvoir commencer à dire, c'est le même principe que la marche de trottine. Là, je trottine et de temps en temps je vais essayer d'accélérer pour faire monter toujours ce rythme cardiaque. Et de fil en aiguille, on va s'apercevoir, alors déjà qu'avant de courir un tout petit peu plus vite, on va dire qu'on va toujours avoir une période, et ça c'est fondamental si on ne veut pas se blesser, c'est une période d'échauffement. On considère que le corps est en activité de course à pied idéale quand on est à 39 degrés. Donc 39,5. C'est là où on va avoir les meilleurs transferts en termes d'oxygène, en termes d'apport de sucre, etc. Et donc, on monte en température doucement pendant 25 minutes. On s'échauffe, comme on dit. Et une fois qu'on est échauffé, on va pouvoir lui demander de faire des activités plus intenses. Donc, échauffement, c'est primordial. Une petite activité supérieure et récupération. Il faut savoir que quand on va donc, ce qu'on appelle fractionner, c'est augmenter sa vitesse de course après l'échauffement, les muscles vont sécréter de l'acide lactique. Cet acide lactique, en fait, est un poison. Qu'il va falloir. Alors, si ce poison, on le garde dans le corps, en fait, on va dire qu'on va vieillir plus vite. Si on essaye de l'éliminer, il va se résorber plus vite. Alors, pour l'éliminer, c'est la récupération, ce qu'on appelle Donc, j'ai commencé 30 minutes d'échauffement et avant de m'arrêter, je fais toujours entre 5 et 8 minutes de récupération. Ça veut dire que je reviens à une course très très lente, qui maintient un rythme cardiaque supérieur à celui du repos, mais qui va favoriser l'élimination de l'acide lactique. Alors, je peux donner des images par rapport à l'acide lactique. En fait, le corps fonctionne comme un moteur de voiture. C'est-à-dire que un moteur de voiture va bien fonctionner à partir du moment où il est chaud. Et le corps... je vais prendre un exemple sur un moteur diesel. Il fait froid dehors, je démarre le moteur et je pars à fond sur l'autoroute. Ça va cracher noir. L'échappement va cracher noir. Et je sais que si je fais ça tous les jours, mon moteur il va pas durer longtemps. Le corps humain, c'est un peu pareil. Si je pars à fond, en fait, je vais sécréter tout de suite de l'acide lactique qui va rester dans les muscles, qui ne va pas s'éliminer puisque je ne suis pas chaud, et qui va engorger mon muscle et qui, à terme, va me créer une crampe, va me créer essentiellement des crampes, en fait, et puis qui vont rester dans le corps après. Donc, parce que le muscle qui fonctionne au niveau des jambes, toujours ce fameux moteur, il a un apport d'oxygène par le sang et il a un apport de carburant, qui vont être des sucres, et ça va être un petit peu comme un moteur, l'oxygène et le carburant du moteur. Voilà. Et derrière, ce moteur va recracher de la fumée noire ou de l'acide lactique. Et donc, si ce moteur, il est pas en état de fonctionnement, et que c'est le gros problème de beaucoup de débutants, d'ailleurs, c'est que ils vont tout de suite vouloir courir assez vite, débutants ou pas d'ailleurs, hein, tout de suite courir assez vite, trop vite, sécréter de l'acide lactique qui va pas être éliminé et qui reste dans les muscles, et qui fait que la course qu'on va faire, si c'est une compétition, on va être bourré de crampes parce qu'on est parti trop vite en fait.
Oui, et puis quand tu dis que c'est un poison, il y a un truc qui est vrai, hein, c'est que c'est véritablement un poison. Moi, j'ai vu un jour un documentaire sur Pierre-Ambroise Boss, donc qui est champion du monde de 800 mètres, et il mesurait son acide lactique dans le sang à l'arrivée d'un 800 mètres, en disant que n'importe quelle autre personne serait morte avec la dose d'acide lactique qu'il avait dans le sang, parce qu'elle était tellement élevée. Mais eux, en fait, leur corps est habitué, et puis ils courent pas longtemps à cette allure-là avec cette dose d'acide lactique. Mais c'est une vérité en fait, hein. C'est que c'est vraiment un déchet qu'il faut arriver à éliminer, quoi.
Ah, mais ça, c'est l'une des catastrophes des gens qui courent tout seuls. Combien tu me parlais, on parlait des bras tout à l'heure sur les débutants, etc. Mais les gens qui commencent à courir, ou les gens qui courent déjà depuis un certain temps, combien il y en a qui partent pour courir une heure et demie le dimanche tranquille, enfin au départ tranquillement, qui partent déjà trop vite, et qui vont terminer leur séance en essayant d'aller plus vite à la fin. Et ils arrivent à la fin de leur séance, ils sont tout rouges parce qu'ils ont terminé au maximum de ce qu'ils pouvaient courir, et ils s'arrêtent pas d'un seul coup comme ça, ils montent dans la voiture et ils partent. Et en fait, ce sont des gens qui sont chargés, c'est le cas de tout ce que tu disais tout à l'heure, ils sont chargés d'acide lactique, et en fait, avant de l'éliminer dans leur corps, il va se passer 48 heures, au minimum. C'est 48 heures de poison. Alors que si ils avaient fait cette accélération 10 minutes avant d'arriver, ils auraient terminé leurs 10 dernières minutes cool, très très cool, même très très bas, eh bien, ils en auraient éliminé la moitié. En fait, il y a un seuil où le corps sécrète de l'acide lactique qu'on arrive à éliminer. Donc, quand on court pas vite, on est en dessous, on l'élimine, il y a aucun problème, il y a aucun résidu. On court un peu plus vite, le seuil s'équilibre, et donc on arrive à éliminer ce qu'on sécrète. Et puis il y a un seuil où on court, où en fait on ne va pas éliminer, et on va conserver cet acide lactique qui va dans le sang s'additionner jusqu'à un point de rupture, jusqu'à un point où on ne pourra pas aller plus loin, et c'est souvent la crampe dans les jambes.
C'est intéressant, le fonctionnement du corps, parce que quand on le comprend un petit peu mieux comme ça, on arrive aussi à comprendre comment on doit structurer l'entraînement. Donc déjà, tu nous as parlé de l'échauffement, on en avait parlé beaucoup dans l'épisode précédent sur mon ménisque, parce que c'est vrai que tu avais dit que c'était un facteur qui est clé et qui est négligé. Moi je le vois même en club, hein. Combien il y en a, les échauffements, ils partent toutes barzingues là, quand c'est eux qui font l'allure de groupe, on a l'impression de dire oh, et attendez, on est derrière, mais on n'arrive pas à suivre.
Ah oui. Oui, alors et alors ce qui est en groupe comme ça, il y a les gens qui savent, les gens qui connaissent et les gens qui connaissent pas. Effectivement, les gens qui connaissent pas, ils veulent toujours voir que ils vont avoir tendance à tirer le groupe, et puis on va retrouver des gens qui ont des capacités de courses très élevées, hein, qui vont faire des marathons en 2:30, en 2:20, et qui, en fait, sur un groupe d'échauffement, vont se retrouver derrière. Et vont être derrière, parce qu'ils savent, parce qu'ils ont la maîtrise. Et je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de l'élimination de l'acide lactique, puisque ça me vient à l'esprit. En fait, ça fait aussi partie des blessures. C'est-à-dire que si je m'arrête à un entraînement chargé d'acide lactique, et le lendemain, je me réentraîne sur une charge que je n'ai toujours pas éliminée, à chaque fois c'est de l'accumulation, et ça finit par une contracture. On n'est plus sur de la crampe, on est sur de la contracture.
Ouais. Et donc là, une blessure qui est vraiment plus importante. Ouais.
Voilà, les gens qui font du bi quotidien ou du tri quotidien, c'est pareil, ils vont toujours avoir une période d'échauffement, parce que quand on a couru le matin et qu'on réattaque le midi ou le soir, en fait il faut avoir éliminé. Alors le corps va avec le temps, et puis avec l'entraînement, en fait va s'éliminer beaucoup plus vite aussi, par rapport à quelqu'un qui va courir que tous les 3 ou 4 jours, celui qui va courir tous les jours ou deux fois par jour, en fait, il va avoir des facultés d'élimination supérieures.
Oui. D'ailleurs, ça me permet de faire un rebond sur un épisode que j'enregistrais avec Stan Gruau, qui disait que lui, il a traversé la France en courant. Alors, je sais plus le nombre de kilométrage, mais ça fait en 15 jours. Grosso modo, ça faisait une moyenne de 90 km par jour, tu vois. Et il disait que la première semaine, le premier jour, ça avait été horrible, qu'il était pas sûr de repartir. Que le deuxième jour, ça avait été compliqué, mais qu'au bout d'une semaine, il s'était rendu compte, en fait, que son corps était capable de s'adapter beaucoup plus facilement qu'il pensait, qu'il avait même repris du poids alors qu'il en avait perdu beaucoup au départ, qu'il avait été capable aussi, que si ça avait duré une semaine de plus ou deux semaines de plus, il sentait pas de fatigue, en fait.
Tout à fait, absolument. Oui, 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 bien sûr, mais il y a des gens, il y a des gens qui font 5000 km en courant 100 km tous les jours. Hein. Oui, oui, le corps s'adapte. Mais avant d'arriver à ça, ce sont des gens quand même qui ont travaillé, qui ont forgé leur corps pour faire ça. Mm. Hein, ils ne sont pas partis du jour au lendemain. Hein. Et en fait, la phase cruciale de tous ces gens qui perdurent dans le temps, c'est le début de leur entraînement. Ça revient à ce que je disais au départ. Ils ont les bonnes postures pour courir de façon à ne pas se blesser. Ce sont des gens qui ont probablement pas couru toujours avec les mêmes paires de pompes, qui ont alterné les chaussures, parce que c'est quelque chose d'important au niveau des débutants. C'est d'avoir des... Je reprends toujours mon moteur et ma voiture, d'avoir des bons pneumatiques, en fait. J'ai des bonnes chaussures, j'adapte mes chaussures en fonction du terrain, de ce que je vais pratiquer, hein, si c'est du chemin ou si c'est de la route, d'avoir le bon drop, les bons amortis, et surtout d'alterner les chaussures, de jamais courir avec les mêmes chaussures d'un jour sur l'autre. Mmh. Les débutants auront tendance à dire « je vais acheter une paire de pompes pour aller courir », voire même pas d'acheter deux paires de pompes. D'ailleurs, hein, je prends la paire de chaussures que j'utilisais quand je faisais du hand ou du basket, et je vais courir avec ça. Alors ça va bien un petit peu, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et donc après, j'alterne mes chaussures. Si j'ai un défaut dans une chaussure, je ne le retrouverai pas dans l'autre.
C'est intéressant. Alors j'ai fait un épisode sur le sujet, sur le moi aussi, comment j'ai rentré dans l'alternance. On en avait beaucoup parlé dans l'épisode précédent aussi, parce que c'est un élément qui est important. Je pense aussi, tu vois, de donner ce conseil, moi je me dis, en y réfléchissant, ça désacralise un peu la crainte d'acheter quand on achète sa première paire de chaussures, se dire, voilà, oh mais si je me plante, si c'est pas le bon modèle, si ça va pas, etc. J'ai envie de dire, ça désacralise un peu ce côté-là, parce que finalement, si une paire, on peut en avoir une, et puis on peut en avoir une deuxième, on peut alterner, on va varier. Alors, bien sûr, si on se sent pas très bien dedans, on va pas partir faire un marathon, ça c'est clair. Mais en tout cas, ça veut pas dire que c'est une paire qui ne servira à rien. C'est aussi que peut-être que plus tard, on peut la mettre dans des rotations, elle va peut-être nous apporter d'autres choses ou éviter de creuser certains problèmes.
Absolument. Oui, oui, absolument. Et puis, on peut dire une paire de chaussures, ça s'use. De toute façon, il faudra la changer au bout de 6, 8, 10 mois, un an. Si j'en ai deux en même temps, en fait, les prochaines, je les achèterai peut-être que dans 2 ans, quoi. Donc, en fait, c'est pas un coût supplémentaire. Ça représente pas un coût supplémentaire. Surtout si ça évite la blessure, en fait, ça évitera d'avoir des coûts supplémentaires de soins.
Oui, et puis ça évite aussi un aspect qui est important, c'est la régression, parce que moi ça fait partie des choses que je vis malheureusement hein, par le biais des pauses, par le biais des arrêts, des petites douleurs, de l'opération, du ménisque, etc. C'est le sentiment que on y a, et je pense que tu vas me confirmer que quand on débute, c'est facile de progresser, mais il y a un stade où j'ai l'impression qu'il est facile de régresser et qu'il est plus facile de régresser que de progresser.
Totalement, absolument. Ah bah oui, oui, mais ça c'est bien connu. D'ailleurs, les gens qui courent tout seuls dans leur coin arrivent à un moment, ils se fatiguent. Ils se fatiguent à courir tout seuls. De garder la motivation pour courir, c'est pas toujours évident. Hein. Il pleut, je vais pas forcément sortir. Ah, il pleut encore à nouveau. Ah bah, je vais pas encore sortir. Et puis de fil en aiguille, je vais rester devant la télé et puis je suis pas prêt de ressortir. Donc les gens. Il y a ceux qui s'arrêtent parce qu'ils sont restés tout seuls dans leur coin. Il y a ceux, effectivement, qui continuent mais qui stagnent Et ils n'ont pas forcément... Alors souvent, ce sont des gens qui n'ont que la motivation du poids. Ils savent que ça leur fait du bien dans la tête, c'est la santé, etc. Ils vont avoir une motivation notamment pour conserver la ligne. Mais ce n'est pas une motivation de coureur au sens performeur. Et puis effectivement, il y a celui qui va avoir cette notion de course performante, c'est-à-dire de progresser pour soi-même, hein, pas forcément par rapport aux autres, et puis qui vont s'apercevoir qu'ils snagnent et qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. À ce moment-là, c'est bien qu'ils puissent intégrer un club qui a un entraîneur plutôt, et ça, ça je l'ai vécu, on le voit encore, plutôt, je dirais, une formule d'association où c'est le meilleur des coureurs, celui qui a les meilleures performances, qui gère le groupe, mais qui n'a pas forcément la connaissance et puis qui n'a pas forcément envie d'ailleurs de faire progresser les autres. Hein. Il prend en charge un groupe parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un à le prendre. Et là, ça fait énormément de dégâts dans les gens qui veulent avoir un encadrement, une progression. Ils pensent que le meilleur des coureurs, c'est celui le plus adapté. C'est plus compliqué que ça, en fait. Hein. Je prends toujours à ça mon exemple où j'ai commencé par démarrer. Il faut savoir que alors, la progression de l'humain, on va dire, on va parler de la VMA, vitesse maximum aérobie, c'est-à-dire c'est une vitesse qu'on peut tenir, sa vitesse maximum, pendant à peu près 8 minutes, bien entraînée, on va la tenir 8 minutes. Et donc c'est une mesure qui est une mesure étalon qu'on va utiliser dans les entraînements. Il y a ça et la fréquence cardiaque. Mmh. Alors, si on se base sur la VMA, l'idée c'était du coup j'en ai perdu le fil. Il y a des...
Oui, on parlait des entraîneurs, on parlait du fait que les meilleurs coureurs sont pas forcément les meilleurs entraîneurs ou voilà, on progresse pas.
J'étais sur l'idée de dire que moi au départ j'ai donc intégré une association qui n'avait pas d'entraîneur et c'était le meilleur des coureurs qui à l'époque faisaient quelque chose comme 2h48 au marathon dans le groupe. Qui prenait en charge les entraînements. Et ils nous emmenaient, on partait, des fois de dimanche, on ne savait pas ce qu'on allait faire, on partait pour 3 heures, 4 heures, on n'avait pas emmené à boire, on allait faire des grands tours, on rentrait, je rentrais, j'étais rincé, j'ai rincé, je passais l'après-midi, le dimanche au lit, tellement j'étais rincé, je faisais une course tous les week-ends pratiquement. Et en fait, cette VMA, voilà, si j'en reviens à ça, c'est parce qu'on l'a fait progresser jusqu'à l'âge de 28 ans, au-delà, c'est si on atteint son seuil maximum avant 28 ans, parce qu'on l'a travaillé très jeune, on va la garder très longtemps, on va l'entretenir, etc. Si on la travaille, cette VMA, qu'après 30 ans, en fait, on n'atteindra jamais le seuil qu'on aurait pu atteindre à 28 ans. Voilà. Et beaucoup de gens vont commencer à courir sur les 22, 23, 24, 25 ans. Et en fait, si j'intègre une association et que je ne travaille pas cette VMA correctement, je n'atteindrai jamais le seuil que j'aurais pu atteindre. Mmh. C'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai couru dans ce style d'association. J'ai réussi à progresser et j'étais content. Et quand j'ai appris, enfin, mon meilleur, alors pour prendre mon exemple, mon meilleur temps marathon, ça n'a jamais été que 2h44 parce que je n'ai jamais pu faire mieux. Parce que je n'ai jamais travaillé ma VMA avant, mais je sais aujourd'hui que si j'avais pas intégré une association, mais un club avec un entraîneur qui m'aurait dès le départ fait travailler correctement, aujourd'hui j'avais une capacité à être aux alentours de 2,25 ou 2,30 au marathon. Donc, quand on est compétiteur dans l'âme et que la motivation c'est celle de la performance, eh bien, je trouve dommage d'avoir perdu un quart d'heure à cause. Bon, voilà. C'est là. Mais ça, je l'ai toujours gardé à l'esprit. Quand on débute, il faudrait être pris carrément en charge tout de suite avec des. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup aux débutants, parce que je sais que c'est crucial pour eux. Et ça ne mange pas de pain, de toute façon, de faire travailler quelqu'un correctement dans les bras, dans la. Dans les séances d'entraînement, dans l'échauffement, etc., ça ne mange pas de pain.
Ouais. Alors moi, attends, je vais te dire un truc quand même, parce que là tu me dis oui, 2h44 au marathon. Moi, tu me fais juste rêver là, tu vois, tout de suite. Moi, je regarde le truc, je dis attends, 2h44 au marathon, c'est une heure de moins que ce que j'ai mis moi. Je me dis, je sais même pas comment c'est possible si je peux y arriver un jour. Parce que moi, tu vois, j'ai couru, j'ai commencé à courir après, largement après la fin de ma VMA.
Oui.
Moi, tu vois, je commence à courir à 40 ans. Alors, est-ce que je suis foutu avec ma VMA?
Non. Alors, non. Non, 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 pas du tout. Alors, j'ai d'autres exemples. J'ai l'exemple d'un excellent camarade avec qui on était ensemble dans cette association il y a 40 ans. Enfin, pas tout à fait, 35 ans. On était ensemble. On courait. Moi, j'ai choisi mon chemin d'aller vers un club et lui, il est resté dans cette association. Il a fait, je ne sais plus, c'est une trentaine ou une quarantaine de marathons. Et à l'âge de 52 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une quinzaine d'années, on a été amené à rediscuter. Et il me dit, Pascal, j'ai jamais réussi à passer en dessous de 3 heures au marathon. Jamais, jamais, jamais. J'ai 52 ans. Je voudrais que tu me fasses un plan. Je lui ai fait un plan. On a travaillé sa VMA pendant au moins 6 mois. Il a fait 2h48. Non, pardon, 2h52. 2h52. Il a gagné quasiment 10 minutes sur son marathon à 52 ans, alors qu'avant, il n'avait jamais pu faire moins de 3 heures. En fait, les entraînements et la VMA, ça se travaille y compris tard. C'est un type qui avait une capacité, pour moi, hein, c'est un type qui avait la même capacité que moi à faire un marathon en 2h30. Mais voilà, c'est un plan d'entraînement marathon, un plan d'entraînement de très pointu et qui tient compte de pas mal d'éléments, hein, forcément. Mais les gens ont des capacités. Tu sais, l'humain, l'homme. En lui-même. Je parle de l'homme, je connais moins, mais la femme, si, je connais quand même. Mais un homme a la capacité de courir 12 à l'heure sur un marathon. Tous les hommes.
Oui.
Tous les hommes peuvent faire 3h30 au marathon. Tous.
Mais pourquoi on n'y arrive pas alors?
Et la femme, c'est 3h40.
D'accord. Mais pourquoi on n'y arrive pas?
Eh bien, parce que c'est un problème d'entraînement. C'est un problème d'entraînement. C'est un problème. Alors, dans les entraînements, il y a des surcharges d'entraînement. Il y a des gens qui vont faire des courses, des marathons, si on parle. Alors, on est pourtant sur un podcast de débutants. Hein.
Oui, mais tu sais, l'objectif marathon est dans la tête. Il y a plein de gens qui disent « Ah, je serai coureur quand j'aurai fait un marathon, etc. » Alors, je vais faire un épisode un jour pour dire que c'est pas vrai, parce que on va démonter un peu un jour ce truc-là, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je pense quand même que c'est intéressant d'expliquer aux débutants qui ont peur aussi de le marathon, tu vois, qui pourraient se dire « Je me sens pas capable un jour de faire un marathon », de leur dire que finalement, c'est peut-être pas si impossible que ce qu'ils le pensent, mais que forcément, quand on débute, c'est pas par ça qu'on commence.
Oui, tout à fait. Mais tout le monde est capable de faire un marathon.
Voilà. Et donc, c'est absolument là où on en revient après sur les notions d'entraînement, etc. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de parler aussi de ces plans d'entraînement, de cette capacité à courir des distances qui nous semblent impossibles au départ.
Oui, ça semble impossible au départ, au même titre qu'un ultra, quelqu'un qui n'a jamais couru un marathon, et tu lui dis « je te prépare pour faire un ultra », dans l'esprit, il y a peu de gens qui savent qu'ils sont capables, alors qu'ils sont capables. Mm. Hein? Les gens connaissent pas, on ne connaît pas ses limites. On connaît pas ses limites de course à pied. On les repousse au fur et à mesure qu'on allonge les distances. On voit qu'on est capable de faire toujours plus. Et à un moment donné, on atteint. Il y a l'aspect temps, c'est-à-dire que globalement, on n'est pas capable de courir plus de 96 heures sans repos. Hein, au-delà de 96 heures sans repos, on meurt. c'est une loi physique. C'est ce qu'utilisaient les SS pour faire mourir proprement certains journalistes à l'époque. C'est-à-dire qu'on tient les gens éveillés pendant un certain temps et ils meurent. On le rapproche de la course à pied, en fait. Donc, plus on veut, plus... Mais on est capable de courir des jours et des jours, à partir du moment où on a un petit peu de repos entre les deux. Quand on fait un 24 heures, ce n'est pas un problème en soi. Donc, c'est bien que les débutants sachent également que le corps humain, il peut... il a des capacités insoupçonnées. Et quelle que soit, j'allais dire, la morphologie de la personne au départ. Hein. Moi, j'ai des amis de la région qui ont démarré à courir et qui faisaient 96, voire plus de 100 kilos pour des gabarits d'un mètre, en dessous d'un mètre 80, entre 1m75 et 1m80. Et qui aujourd'hui, enfin bon, avec l'âge un peu moins, mais qui ont eu des performances à moins de 3 heures au marathon, alors qu'ils sont partis, c'était des gens qui étaient en surpoids. Donc toujours cette même notion, c'est de dire, oui, si je suis en surpoids, ok, moi ça ne me dérange pas de te prendre en entraînement, au contraire, tu verras ta marge de progression, mais le truc le plus important pour toi, c'est que tu n'ailles pas te blesser, quoi. C'est la longue. Si on arrive à te faire courir pendant 2 ou 3 ans sans que tu te blesses pendant 6 mois, ça sera le top. Et dans 3 ans, tu fais un marathon.
Oui, et forcément, quand on arrive à courir régulièrement, sans se blesser, sans douleur, sans rien, enfin une douleur importante qui empêche de courir, forcément qu'on progresse, puisqu'on donne l'habitude, on a le corps qui s'adapte et qui arrive à enchaîner, parce que faut le dire, la course à pied c'est quand même un sport d'accumulation. Il faut accumuler du temps, de la distance, de l'expérience, de la capacité à soutenir l'effort.
Oui, bon, comme beaucoup de sports aussi, hein. En fait, on arrive à la performance qu'à partir du moment où tu as des heures d'entraînement et des heures d'entraînement. Du coup, j'avais une idée qui était peut-être importante. Bon, elle me reviendra.
Ouais, elle te reviendra, mais t'inquiète pas, parce que j'ai plein d'autres questions, et je suis sûr qu'avec mes petites questions de débutant, on va en trouver d'autres. Alors, tu sais, quand on prend le coureur qui va chez son marchand de journaux qui débute, ou même celui qui débute pas, en ce moment, sur tous les rayons, il y a les trucs, le plan pour faire progresser la VMA, le plan pour faire perdre du poids, le plan pour préparer un semi, le plan pour préparer son off, le plan pour faire ça, le plan pour faire ça, le plan pour faire ça. Tu vois ce truc-là, là. Et ouais. Tous les ans, c'est les mêmes magazines qui sortent juste, ils changent la photo, ils changent un petit peu un truc du plan, etc. J'ai oublié le plan perte de poids à la fin de l'hiver, le plan je me remets à courir, le plan je débute la course, enfin tous ces plans-là comme ça, là, tous ces trucs-là et autres, et dedans il y a plein de mots qui peuvent sembler barbares, etc. Entre les sorties longues, entre la VMA dont on a parlé tout à l'heure, entre est-ce qu'il faut que je cours une fois, deux fois, est-ce qu'il faut que je fasse des gammes, des exercices, enfin tout ça quoi, tout ce truc-là, etc. Et celui qui a juste envie de se dire, est-ce que je pourrais pas courir simplement, aller juste courir comme ça, tranquillement, est-ce que je peux quand même progresser ?
Les deux. Les deux. Celui qui regarde les magazines, c'est qu'il s'intéresse à sa progression. Donc en soi, c'est déjà bien, il est déjà dans une démarche de progression. Est-ce que ça va l'aider ? Oui, à partir du moment où c'est un débutant, de toute façon, ça va forcément l'aider à un moment donné de structurer un peu ses entraînements. Ça ne sera pas forcément le top du top, mais ça va le faire progresser jusqu'à un certain seuil, jusqu'à un certain point. Après, il y aura d'autres choses qui vont pouvoir le faire progresser, la technique des bras, la technique de course, etc. Ensuite, il y a celui qui dit je vais courir tout seul, je vais faire mon heure, etc. Est-ce que je vais progresser ? Il va progresser jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. C'est-à-dire qu'il va toujours. Alors, en général, c'est des gens qui vont se dire j'ai fait 10 km en 50 minutes et j'essaye tous les dimanches, je vais recourir mes 10 km et puis je regarde si je progresse en courant que 49, que 48, etc. Donc, alors ça, ces gens-là, ils vont progresser jusqu'à un certain point, puis ça va vite s'arrêter. C'est-à-dire qu'ils seront un jour incapables d'aller au-delà, puisqu'ils n'auront pas vraiment travaillé leur VMA. Ils auront fabriqué un diesel qui est capable de tourner à 12,5 à l'heure pendant probablement assez longtemps. Ils vont faire une heure et demie, deux heures. C'est des gens qui sont capables de faire ça. Mais si un jour on leur demande de faire du turbo-diesel, c'est-à-dire que d'augmenter un peu dans les tours en fréquence cardiaque, eh ben ils en seront incapables. Ou ça va durer 3 minutes. Ils vont s'aligner sur une course, par exemple. Ils vont vouloir faire un semi parce qu'ils courent une heure et demie ou deux heures sans problème à 12 à l'heure. Et ils vont s'aligner sur le semi. Ils vont partir un peu plus vite. Et puis au bout de 3 minutes ils vont s'éteindre parce qu'ils auront jamais ils ne seront jamais montés dans les tours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fréquence cardiaque ils vont fabriquer un cœur qui est capable de battre à 150 pulsations pendant des heures et des heures, mais dès qu'ils vont faire 160 ou 165, ils vont très vite monter dans les tours à 170. Et puis à partir de là, ça va durer 1 ou 2 minutes, et puis au bout de 2 minutes, c'est mort. Je suis chargé d'acide lactique, je n'arrive plus à éliminer, et je termine à la ramasse.
Mais j'ai l'impression qu'on l'a tous vécu un peu, cette histoire-là, finalement. Enfin, en tout cas, ceux qui n'ont pas couru, tu vois, toute leur vie, parce que ceux qui courent, qui commencent jeunes, en club, etc., qui progressent au fur et à mesure, ouais, ils peuvent pas savoir de quoi on parle, surtout quand moi, qui commence à courir qu'à 40 ans, tu vois, il y a un moment donné où tout ce que tu me racontes là, mais je l'ai vécu. Tu vois, le truc, me sentir comme un turbo-diesel. Je disais que j'étais un coureur lent, que j'étais... alors moi, je suis un hamster, mais en plus, un hamster lent, tu vois, on n'est pas le poulet de basse-cour, on n'est pas le poulet d'élevage, mais on est le poulet tout mou quand même. Ça, enfin, le hamster tout mou, c'est exactement la même image. Et j'ai envie de dire, on est tellement à passer par là, à se prendre ce truc en pleine figure, tu vois, ou de... moi, sur les séances de piste, à me dire, mais à un moment donné, j'ai l'impression que je peux jamais aller plus loin que ça, que j'arrive pas à avancer, quoi.
Alors, c'est là l'avantage et l'aspect positif des choses quand même, c'est que c'est pas irrémédiable. C'est irrémédiable sur la vitesse qu'on aurait pu acquérir. Par contre, c'est pas irrémédiable sur. Je repars un peu, je vais pas dire à zéro puisque j'ai quand même une certaine pratique, mais je repars et je reprends les bases pour reprogresser. Et là, c'est intéressant parce que c'est un deuxième niveau qui fait que ben, j'ai progressé tout seul dans mon coin. Arrivé à un certain seuil, j'ai probablement un peu régressé, mais comme je suis repris en main, eh bien, je reprogresse et je vais plus loin que le palier que j'avais au départ, quand même. Ça, c'est un message d'optimisme, quand même. Et quel que soit l'âge, en fait, hein.
Quel oui. que soit l'âge. Mais tu vois, regarde, je viens de regarder mon semi-marathon de Vichy, il y a 2 ans, tu vois, de ça. Et je regarde, mon temps moyen, c'est 4,45 au kilomètre sur le semi-marathon. Donc, tu vois, quand tu dis 12,5 dans cette allure-là, j'y suis même pas.
Si.
Ouais, ou je suis dans cette zone-là, quoi, on va dire.
12 km heure, c'est 5 au kilo.
Voilà.
4,31, c'est 13 au kilo.
Mmh. Ouais, donc 12,5 à 4,45. Donc, je suis pile dans le truc que tu viens de décrire.
Oui, tout à fait. Mais tu as une marge de progression.
Oui.
Tu as même une sacrée marge de progression.
Alors ça, c'est super rassurant pour moi, tu vois. Parce que moi, je me dis, mais quand même, j'aimerais bien progresser. Comment je vais faire pour progresser? Alors, on va venir quand même, tu vois, parce que j'avais mis sur ma petite question là, la fameuse VMA, tu vois, comment on l'a fait progresser. Et les gens, on peut lire les histoires de fractionnés, on peut lire des histoires d'entraînement polarisé. Je parle même pas des vitesses intermédiaires, tu vois, il y en a qui entendent parler de seuil, etc. Finalement, pour progresser, tu vois, tu me dis là, tu me vois là comme ça, tu me dis, pour progresser, il faut que je fasse quoi? Que je fasse des séances très rapides? Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'il y a vraiment à faire progresser?
Déjà, il faudrait faire un état des lieux et connaître aujourd'hui ta VMA, c'est-à-dire faire un test de VMA, pour déterminer là où on est, là d'où tu pars, pour voir là où on va aller. En termes d'entraînement, on peut raisonner soit en termes de VMA, ce qui est technique hein, pour un débutant. Hein, c'est toujours l'histoire des 8 minutes que je peux tenir pendant un certain temps. Une vitesse que je peux tenir maximum pendant 8 minutes. Ou soit on peut raisonner en pourcentage de sa fréquence cardiaque. Alors, quand on est un débutant, le plus simple, c'est de raisonner par rapport à sa fréquence cardiaque. Aujourd'hui, pratiquement toutes les montres peuvent prendre le pouls. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, à un moment donné, au fur et à mesure de mes entraînements, c'est de voir jusqu'à... Alors, sans aller chercher une machine très sophistiquée, c'est de se dire jusqu'à... Enfin, quand j'ai une machine, des tests compliqués, etc., c'est de se dire jusqu'à combien de fréquences cardiaques je suis capable d'aller. Et de se servir de cette base pour pouvoir m'entraîner. Donc, n'importe qui peut le faire, sur n'importe quel terrain. Je m'échauffe un tout petit peu, pas beaucoup. Dans ce cas-là, c'est une des rares exceptions où je vais partir. Je ne vais pas m'échauffer pendant 25 minutes. Je vais faire 10 minutes, 12 minutes d'échauffement, tout doucement. Et je vais accélérer progressivement de façon à atteindre une vitesse très importante, la plus importante que je puisse avoir, et de la conserver. Alors, la plus importante, mais pas vraiment le sprint. Je cours vite, je cours très vite, j'essaye de le maintenir pendant cette vitesse-là, pendant le temps maximum que je puisse, ça va être 30 secondes, 1 minute, 1 minute, 2 minutes, et de mesurer cette fréquence cardiaque, et de s'en servir après, en disant, voilà, j'ai atteint, suivant mon âge, 180, puisqu'il y a une fréquence cardiaque théorique qui est de 220 moins l'âge, donc on peut l'avoir par là, hein, c'est-à-dire que si j'ai 40 ans, ma fréquence cardiaque maximum théorique c'est 180, et auquel cas je vais m'en servir pour mes entraînements, ou je vais essayer aussi de la mesurer sur le plan pratique et d'aller voir si peut-être par hasard je ne fais pas 184 ou si je ne peux pas aller au-delà de 176. Est important, et de s'en servir après dans ces entraînements pour progresser en termes de pourcentage. C'est-à-dire, on va dire que globalement, je vais courir 60 à 70% du temps à une fréquence cardiaque de 60-65%. Je vais répartir mes entraînements comme ça. Ensuite, je vais faire entre 20 et 30% de fréquence cardiaque plus importante, on va dire aux alentours de 80-85%, et l'ultime, c'est de dire je vais faire 10% de mes temps d'entraînement en fréquence cardiaque haute. Donc dans ce cas-là, on va être sur du 30-30, sur des minutes, sur des 2 minutes maximum. Qui seront des alternances de courses rapides et de récupération lente. Et quand on parle de récupération, on ne parle pas de récupération station debout où je fais rien, c'est je continue de trottiner. C'est le cas du 30-30, hein. Je cours vite 30 secondes. Je cours moins vite 30 secondes. Je me suis pas assis ou je me suis pas resté debout 30 secondes. Hein. C'est 30 secondes vite, 30 secondes lent, etc. En fait, il faut savoir que pour progresser en VMA, l'idéal, c'est que la fréquence cardiaque entre le haut et le bas ne soit pas de plus de 20 pulsations.
D'accord.
Ce qui fait que on peut jouer là-dessus d'une manière importante. C'est-à-dire que, par exemple, je vais courir une minute à 175 de pulsations. Si je m'arrête, je ne bouge pas, en fait, je vais perdre 20 pulsations en quasiment 15 secondes. 20 secondes, je vais perdre mes pulsations. Ça veut dire que dans ce cas-là, il faut que je reparte 20 secondes après.
D'accord.
Pour ma minute.
Ok.
Si je trottine, je vais pouvoir... trottiner pendant... Je vais perdre mes 20 pulsations entre 30 secondes et 45 secondes. Donc, je vais récupérer... Si je cours une minute, je vais trottiner 30 secondes ou 45 secondes. Je surveille mes pulsations et je repars pour une minute après. L'idéal, c'est qu'entre le haut et le bas, je n'ai pas plus de 20 pulsations.
D'accord.
Quand on voit des gens qui s'entraînent tout seuls, qui vont faire des milles, par exemple, des kilomètres... ou même indépendamment, hein, des 400 mètres, des 500 mètres, les gens vont faire leur fractionné, et là, très souvent, ils sont en position stationnaire.
Oui, parce qu'ils n'en peuvent plus.
Alors, c'est qu'ils sont allés trop vite. Dans ce cas-là, c'est qu'ils ont allé trop vite. Normalement, une séance de fractionné, on est capable de faire sa récupération en trottinant. Sinon, c'est qu'on est allé trop vite. Et d'aller trop vite en entraînement, c'est totalement improductif.
Mais tu vois, je suis en train de regarder mes courbes par curiosité, parce que tu vois, quand on en parle, je me rends compte que finalement, c'est une histoire de 20 pulsations d'écart. Enfin, sur ma dernière fractionnée que j'ai fait, qui a maintenant quelques semaines, j'étais vraiment dans cet esprit-là, tu vois. Je suis pas aussi éloigné que ça, tu vois, sur l'instant. Il y a juste, on a un moment, un grand pic, parce que tu sais, on fait 2 fois 10 fois 30-30, tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, il y a une vraie pause où là, d'un coup, ça redescend et puis ça repart, etc. Mais je suis pas si loin que ça, tu vois. Mais par contre, je me rends compte que, et c'est ça, par contre, c'est une, alors je sais pas après, parce que peut-être que la montre peut un peu fausser l'histoire, etc. J'ai le sentiment que par moment, on a du mal quand même à atteindre, tu vois, le, est-ce qu'il faudrait atteindre cette puissance, cette fréquence maximum, ou est-ce que finalement, il faut avoir une marge dessus, tu vois?
Ouais, il faut avoir une marge. Tu peux pas. En fait, tu atteindras ta vraie fréquence, qu'au-delà d'un certain temps de course. C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais des 100 mètres, on va dire entre 14 et 15 secondes ou 16 secondes, ou 20 secondes, hein, ça dépend des niveaux des gens. En fait, tu n'as pas le temps en 20 secondes d'avoir ta fréquence cardiaque maximum.
Ouais.
Tu l'atteindras. Alors, tu l'attendras plus facilement sur les 400 parce que ça va commencer à faire plus d'une minute d'effort. Si on parle des débutants, ça risque d'être 2 minutes. Hein. On va atteindre la fréquence cardiaque maximum. Mais sachant qu'on travaille rarement à la fréquence cardiaque maximum.
Oui.
Après, on est obligé de se baser sur la VMA. Hein, la fréquence cardiaque maximum, ça a ses limites. Parce que, par exemple, quand on travaille du court, et si je fais le parallèle avec de la VMA, quand on va travailler des 100 mètres ou des 150 mètres, on va travailler à 105 ou 110 ou 115% de sa VMA. Mmh. C'est-à-dire que cette VMA qu'on est capable de tenir pendant 8 minutes, elle est une valeur, c'est pas la valeur maximum de course. J'ai une VMA de 18 km/h, donc je suis capable de tenir 18 pendant 8 minutes. C'est ce sur quoi je vais travailler. Par contre, je suis capable de courir 30 secondes ou 1 minute à 20 km/h.
Oui.
Donc là, on parle de pourcentage de VMA. Par exemple, on va dire que dans ce cas-là, c'est 110% de sa VMA. Ça sera sur du court. Par contre, on n'atteindra jamais 110% de sa fréquence cardiaque maximum, puisque par définition, la fréquence cardiaque maximum, c'est la maximum.
Oui, tout à fait, ce qui est extrêmement logique, et c'est pour ça que je suis en train de regarder mes temps, etc., tu vois. Et effectivement, hein, quand on regarde, on est capable de courir plus vite, mais pas très longtemps, hein, dans ces zones-là.
Merci.
Mais c'est vrai que c'est un peu intimidant au départ, et puis tu sais, nous, c'est des grands débats, parce que même au club, alors cette année, bon, c'est vrai qu'avec le virus... savoir comment évoluer sa VMA, c'est pas si simple que ça, hein. Les évolutions de VMA, les tests de VMA, on n'a pas pu les faire comme on voulait. On a l'impression quand même que on tâtonne un peu pendant un sacré bout de temps quand même, quand on est dans cette phase d'apprentissage, on débute, etc., que on n'est jamais bien sûr de courir aux bonnes allures, en fait.
Tout à fait. D'autant plus, alors si ça fait partie des standards des gens qui, à force de s'entraîner, bien s'entraîner, vont avoir une notion de se dire finalement c'est assez facile. C'est-à-dire que on m'a donné, j'ai une série de 400 mètres à faire, allez, en 1:30, et en fait, je vais plutôt les faire en 1:26, en 1:25, parce que je me sens beaucoup plus à l'aise. Ça a ses limites. Hein. Ça veut dire que, en fait, je me surentraîne, je suis capable de le faire, mais en fait, ça va être contre-productif. Il vaut mieux que je fasse, à la limite, une série de 15 fois 1,30, enfin 15 fois 400 en 1,30, plutôt que de faire 10 fois en 1,25.
Ouais.
Il y a des moments où il va falloir gérer, parce que ça fait aussi partie de l'aspect blessure des choses. C'est-à-dire que mon corps est capable de, mais dans une certaine limite. Et si je le pousse à chaque fois entraînement, je le repousse dans ses limites, eh ben, ça a ses limites qui seront la blessure. Donc, on va aussi progresser en, entre guillemets, en se sous-entraînant par rapport à ses perceptions,
oui.
Sa perception des choses. Voilà, j'ai l'impression de, je pourrais aller plus vite. En fait, je suis très à l'aise. Et ben, c'est là que c'est bien. C'est là que c'est bien. Si tous mes entraînements, je les termine à la ramasse, il va falloir qu'il y ait une récupération spécifique derrière, en fait. Que peuvent avoir les champions, hein. On est dans une autre catégorie. Si je termine mes entraînements en plus, avec la possibilité de faire de la cryothérapie, avec la possibilité de faire, d'avoir des masseurs, avec la... Ok, on est sur une autre planète.
Oui, oui, il ne faut pas oublier, parce que c'est vrai que les champions, ils ont des équipes, ils ont du repos, ils ont du sommeil, ils ont tout un tas de conditions aussi qui font que ils vont récupérer totalement différemment.
Il faut pas un boulot non plus
ouais.
À côté.
Parce que moi, au club, j'en ai vu des gens qui finissaient même en vomissant les séances, qui sont totalement épuisés, etc., qui sont complètement épuisés. Et tu vois, moi, c'est vrai que cette notion de dire « Ouais, mais j'ai l'impression d'aller plus vite », je me suis fait avoir, je ne sais pas combien de fois, sur les séances de fractionné, où la première fraction, mais je pars comme un avion. Mais alors, vraiment, tu sais, ça vole et tout, je regarde derrière moi, il n'y a personne, etc. Et puis tout à petit, après, d'un coup, ça, ben forcément, ça ralentit cette histoire-là. Et après, il y a la huitième, en général, qui est toujours celle où moi, ça, je commence par dire « Ouais, j'en ai marre, j'en peux plus ». Puis la dernière, l'avant-dernière et la dernière, où ça repart, tu vois, cette notion-là. Et le président m'a dit un truc, il m'a dit « Mais en fait, toutes tes fractions, tu dois les courir à la même allure ».
Il y a plusieurs méthodes là-dessus. Un fractionné, ça peut se gérer comme une course. C'est-à-dire que, en règle générale, hein, si je décide, on va prendre le semi qui est le plus accessible à tout le monde, mais même sur un 10, ça fonctionne. J'espère avoir une moyenne, par exemple, sur mon semi, je vais dire quelque chose de simple, une moyenne de 12 km/h sur mon semi-marathon. Si je pars mon premier, mon deuxième et mon troisième kilomètre plus vite que ma moyenne espérée, je vais forcément terminer en dessous à la fin. Parce que c'est physiologique, ça va être comme ça, je suis parti trop vite et à la fin je m'écroule. Si je pars moins vite ou pas plus vite au début, j'ai de fortes probabilités de terminer plus vite à la fin. Les courbes s'inversent. Dans les entraînements, c'est un peu pareil, mais pas totalement. C'est-à-dire que si ma première série, je suis bien échauffé, je pars sur mon temps, je vais le faire. Je vais faire mes temps. Psychologiquement, souvent, c'est des erreurs qu'on voit, les gens sur les derniers, on a une série de 10, par exemple 10 x 400, l'avant-dernier, je vais déjà essayer d'aller un peu plus vite, et le dernier, je vais essayer d'aller encore plus vite. Ça, ce sont des pièges, pour moi, qui sont des erreurs qui mènent à la blessure également. C'est-à-dire que je vais avoir ma séance d'entraînement qui va me fragiliser au niveau du corps et qui va peut-être faire qu'à un moment donné, je suis à la limite d'une petite rupture, une micro-rupture quelque part. Mais elle va tenir. Par contre, si j'accélère sur mon dernier ou mon avant-dernier, c'est là que je risque de péter. Et en fait, du coup, je vais terminer ma séance sur une micro-blessure. Non plus sur quelque chose qui était à la limite de la rupture, mais je vais le terminer sur une blessure. Une micro-blessure peut-être, mais blessure, qui risque de se réouvrir la séance d'après.
Oui.
Donc, il est préférable de ne pas augmenter ses séances, de ne pas augmenter ses vitesses sur les deux derniers runs, voire lâcher un petit peu du lest sur le dernier.
D'accord. Mais pourtant, c'est vachement rassurant, tu sais, parce que j'ai le souvenir, même, il y a des entraînements où il y a un gars qui dit, allez, on va essayer de le faire le dernier plus rapidement, tu te rends compte, tu peux finir plus vite, etc. Tu dis, ouah, mais ça va, j'ai encore du gaz et tout, tu vois, c'est super rassurant quand même pour notre petit ego de hamster, là.
Bien sûr, mais si tu dois aller plus vite dans ta séance, ce sera plutôt sur celle du milieu.
Je comprends.
4, 5, 6, 7. Et après, on est légèrement sur le déclin, mais c'est un déclin, je dirais, programmé, intellectualisé. C'est-à-dire qu'on ne le vit pas comme quelque chose de négatif parce que c'est une volonté. Alors que celui qui va terminer ses runs sur où il est à la ramasse, il n'arrive pas à faire ses temps, on est psychologiquement sur quelque chose qui n'est pas bon. Je suis arrivé, j'ai pas pu faire mes temps, donc je suis pas en forme, donc si, donc ça induit plein de choses. Et cette même personne, si elle volontairement diminue ses temps, en fait, elle aura pas la même psychologie.
Oui, mais je le comprends, tu vois, parce que maintenant que tu me l'expliques, effectivement, souvent, je sortais des séances frustré, en me disant, ouais, j'arrive pas à tenir mon truc, je pensais courir à telle allure, j'arrive pas, pourtant, j'étais bien parti, et dans ma huitième, j'ai cédé, j'arrive pas, etc. Mais tout d'un coup, tu vois, d'un coup, tu viens de m'éclairer mon avenir, j'ai envie de dire. Parce que, bon, là, en ce moment, je peux pas courir, mais quand je vais pouvoir reprendre, et puis, tu vois, c'est en train de me tourner dans ma tête en ce moment. Je suis en train de réfléchir, me dire, bon, alors attends, si à la fin de l'année, j'arrive à faire un semi ou un marathon, ce qui sera un de mes objectifs, tu vois, je vais me caler après le ménisque, etc. Je me dis, waouh, mais alors, finalement, mes séances, il faut que je les envisage différemment. Et effectivement, vu comme ça, je me dis, je peux ressortir plus confiant, finalement, d'une séance VMA difficile, mais sur laquelle j'ai programmé le fait que j'allais aller un poil moins vite à la fin, parce que c'est un peu normal. Plutôt que me dire, je l'ai subi sur la fin et j'arrivais pas à tenir la vitesse que je m'étais fixée parce que tout simplement je pouvais plus le faire.
Tout à fait. C'est cette philosophie, quand on l'a en entraînement, on arrive à la calquer sur les courses également. C'est-à-dire que donc je pars pas forcément trop vite, je vais me faire plaisir et en fait il y a deux solutions, c'est ou je subis la course ou je la maîtrise. Et une course subie ou un entraînement subi n'a pas du tout la même les mêmes conséquences psychologiques. Quand je subis une course, je termine à la ramasse, on n'est pas content en fait. Par contre, quand on la maîtrise jusqu'à la fin, c'est absolument génial. Le point que tout à l'heure m'avait échappé, enfin tu sais, j'avais dit ça me reviendra, notamment par rapport au fait qu'on peut courir, etc. Il y a quelque chose que beaucoup de gens débutants ne connaissent pas, en fait, par rapport au plaisir de la course. C'est comme souvent les gens, ouais, courir, j'ai pas de plaisir, etc. Le plaisir va venir avec le temps, à force de courir également, parce que au-delà d'un certain temps, le corps va sécréter de l'endorphine. L'endorphine, j'aime bien dire, c'est une substance dopante proche de la cocaïne. C'est pas tout à fait juste, hein, mais bon, voilà, c'est pour la petite histoire. En fait, l'endorphine, c'est une réaction du corps qui fait que ça va sécréter un bien-être dans le corps qui va également le soigner. Donc, quelqu'un qui va courir, comme tu prenais l'exemple de 8, 9, 10 heures, 11 heures par jour, tous les jours, en fait, son corps va sécréter de l'endorphine qui fait qu'on va s'auto-soigner grâce à ce système. Et les gens qui courent de plus en plus, tous les jours, etc., en fait, sécrètent de l'endorphine et on prend le plaisir à sécréter de l'endorphine. Et au point qu'à un moment donné, on en devient dépendant.
Ouais.
Ça veut dire que si on ne court plus, on n'a plus cette dope et ça nous manque.
Ouais, et tu sais, j'en ai parlé parce que j'ai fait un épisode sur le blues du marathonien. Tu sais, la fameuse pause, on dit il faut faire après un marathon, il faudrait faire une pause, etc. Et justement, il y a des études qui ont été faites, j'avais trouvé des études qui montraient que le blues du post-marathon est justement provoqué par le fait que tu passes de 8, 9 heures, 10 heures à t'entraîner par semaine, à tout d'un coup une pause, et que quelque part, eh ben, t'as plus ta dose de qui vient là, parce que l'accoutumance se fait à partir de 4 à 5 heures d'effort par semaine. Donc, pour un coureur, on y est extrêmement vite, en fait, hein, à cette dose-là, en fait, hein, de l'avoir.
Oui. Bah, oui, oui, 5-6 heures, c'est vite fait. Hein.
Ah oui, surtout toi, quoi, mais bon.
Non. Alors, avec le temps, c'est de moins en moins efficace, quand même. Hein, ouais. sur les 25 premières années de course, quand on court souvent, on en a besoin. J'avoue qu'aujourd'hui, là, ça fait 4 jours que j'ai pas couru, ça me manque pas. Pourtant, la semaine dernière, j'ai fait entre 2 et 3 heures tous les jours pendant 6-7 jours. On arrive à jongler et on a moins ce manque.
D'accord. Ouais, avec l'âge. Bon, moi, j'ai le temps, hein. 20-25 ans, tu vois, de course. Il me reste encore 20 ans à courir avant de pouvoir me passer de ma drogue. Bon, ouais, on va gérer. Puis de toute façon, je suis obligé de la gérer en ce moment puisque j'ai pas le droit de courir. Donc, en tous les cas, je vais la gérer. Tiens, alors, j'ai deux questions pour finir parce que je sais qu'elles sont... Puis ça revient en sans arrêt, ces histoires-là. Puis je l'ai eu l'autre jour encore, cette question-là. Tu sais, on lit beaucoup les histoires sur la cadence. Est-ce qu'il faut courir à 180 pas par minute? Est-ce qu'il y a une allure type à laquelle il faudrait courir? Il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus et je pense que chacun a son avis là-dessus. Alors, on va pas faire un grand débat sur faut-il courir à 180 pas par minute ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce truc-là?
J'en pense rien, pas grand-chose. La cadence est liée à la morphologie du coureur. Si je suis un coureur qui mesure 1m60, ou si je suis un coureur qui mesure 1m90. Chérie, attends, il y a une petite catastrophe. Ouais. Voilà. Ça y est, c'est fini. Elle était dans les escaliers, elle a fait la syncope dans le milieu des escaliers.
Oups. Voilà.
Tu pourras couper comme ça.
Ouais.
Bon, on reprend. La cadence de course sera fonction de la morphologie des gens. Leur taille, leur poids, leur vélocité, leur entraînement, la vitesse de course. En fait, c'est vouloir mettre pour moi les gens dans un moule et de mettre tout le monde identique. Pour moi, ça ne marche pas. Ça peut se concevoir comme un truc qui est personnel. C'est-à-dire, au même titre que sa fréquence cardiaque, de se dire, bon, j'ai une fréquence cardiaque maximum de X, je m'entraîne par rapport à ça, j'ai une cadence en général de ça, qu'est-ce que ça fait si je change ma cadence? Et auquel cas, est-ce que ça m'apporte des avantages ou pas? La cadence sera pas la même si je descends une côte ou si je la monte, si je suis sur du plat, si je suis sur du cendré ou du tartan, si je suis si j'ai une paire de pompes qui est différente à chaque fois, j'ai pas forcément la même cadence. Enfin bon, voilà, donc ça reste assez marketing pour moi.
Oui, non, mais après, et puis moi je me rends compte que c'est quand même difficile, qu'il y a des grands débats dessus, et il y a beaucoup de coureurs frustrés aussi, parce qu'on dit qu'il faudrait 180, mais on n'y arrive pas, on a beau essayer de courir en mettant des tic-tac-tic-tac-tic-tac pour poser les pieds, etc. dessus. Moi je sais que la mienne, elle est plutôt autour de 165, mais voilà, et puis il y a des moments où ça accélère, il y a des moments où ça ralentit sur les exercices, et c'est vrai que quand on fait du fractionné, on se rend compte que bah sa fréquence, elle est totalement différente, hein. C'est, il n'y a pas à dire, quoi. Hein.
Oui, ouais. C'est pas pour moi un bon indicateur pour les entraînements.
Et on va finir sur une dernière question parce que là aussi il y a un peu des débats, etc. sur la fameuse sortie longue, notamment parce que tous ceux qui veulent préparer du semi, du marathon, forcément ils ont une sortie longue, etc. Il y a les débats pour ceux qui disent il faudrait partir courir X kilomètres, X temps, ceux qui disent il faudrait pas dépasser 1h30 ou des choses comme ça. Quel est ton avis? Alors, je parle pas, bien sûr, parce qu'on parlera un autre fois de tout ce qui est sur ceux qui vont allonger les distances pour faire de l'ultra. Mais quelqu'un, tu vois, qui est dans ses fameuses premières années, le dimanche, il a un peu plus de temps pour aller courir. Est-ce qu'il prend tout le temps qu'il a? Est-ce qu'il doit se limiter un petit peu pour éviter la fatigue? C'est quoi la stratégie, finalement, sur ces séances-là? Et comment on en profite vraiment pour progresser?
Alors, l'avantage d'une sortie longue, sur le plan métabolisme, je dirais, c'est qu'en fait, jusqu'à 40 minutes course à pied, on va consommer, hein, le carburant du muscle, ça va être du sucre, ça va être les sucres. Et qu'au-delà de 40, j'en ai moyenne, hein, 40, au-delà de 40 minutes, on va plutôt fonctionner sur le système de consommation des graisses. Donc, l'intérêt d'une sortie longue, ça va avoir un intérêt de faire tourner le moteur avec deux carburants différents. Le carburant de la, entre guillemets, rapidité, qui est le sucre, et puis le carburant de la longévité, qui est la graisse. À partir de là, quand on consomme les graisses, on perd du poids. Et l'intérêt de la sortie longue pour les débutants qui veulent perdre du poids, c'est justement de courir au-delà de 45 minutes, hein. Toujours lentement. S'il court trop vite, de toute façon, ça ne le fait pas, ça ne sert à rien. Donc, de courir lentement. Et après, je dirais, c'est en fonction du bien-être de chacun. Si on n'a pas d'objectif particulier de compétition, etc., encadré avec un plan d'entraînement, quelqu'un qui a la capacité de courir une heure et demie gentiment, sans être obligé de se coucher l'après-midi parce qu'il a fait sa séance le matin et qu'il est complètement claqué, qui en ressort avec un bien-être, c'est celle qui lui apportera le meilleur des bénéfices.
Ouais.
Donc, pour certains, une heure, ça peut être une sortie longue parce qu'ils n'ont jamais couru, parce qu'en général, ils courent 40 ou 45 minutes. C'est leur sortie la plus longue, sans être la sortie longue de l'ultra-marathonien, hein, bien sûr. Mais en règle générale, on va dire, on commence à parler de sorties longues au-delà d'une heure 15, d'une heure 30. Quoi. En dessous, ça reste des sorties relativement courtes pour la moyenne des gens. L'ultra longue de sortie ne sert à... Enfin bon, ça c'est un autre débat, ça sert pas forcément à grand chose.
Voilà, et ben tu sais quoi, et ben ça permettra de faire l'enchaînement avec le futur épisode qu'on fera justement sur ceux qui vont passer le cap au-dessus et qui vont se dire tiens, moi je vais m'attaquer à l'ultra long, je voudrais augmenter les distances, faire plus de temps, etc. Parce que après, j'ai envie de dire, c'est un peu un autre monde. Là, aujourd'hui, on s'était concentré sur plutôt ceux qui commencent, ceux qui veulent progresser un petit peu, qui savent pas trop comment structurer les choses. Et tu nous as donné beaucoup, beaucoup de pistes de réflexion, notamment de voir comment on approche ça. Et la prochaine fois, on verra des pistes de réflexion pour ceux qui veulent, justement, aller au-dessus, hein, passer le cap, aller au-dessus, etc., de voir comment on fait. Et tu vois, tu m'as fait une belle transition, hein. Merci. Vraiment, je te remercie vraiment beaucoup là-dessus. Est-ce que tu vois un dernier conseil, tu vois, à donner à ceux qui sont justement dans cette période-là, tu vois, là, maintenant, il commence à faire beau, printemps, on dit, je vais me remettre à courir, j'ai envie de débuter, j'ai envie de progresser un petit peu, de prendre des nouvelles bases. Est-ce que tu vois un conseil, tu vois, type que tu leur donnerais là, tout de suite, là?
Oui. Boire. Boire en courant.
De l'eau, attention, précise.
De l'hydratation, ouais. Absolument. On arrive sur des périodes où la plupart des gens n'ont pas besoin de boire en deçà d'une heure. C'est-à-dire que, alors là, c'est encore un autre débat si on parle là-dessus, mais je dirais boire. Je fais mon échauffement et je bois un petit peu. Au bout de 25 minutes, 30 minutes, je bois un tout petit peu, 2, 3, 4 gorgées pour faire mon heure tranquillement.
D'accord. Et tu sais, je vais te raconter une anecdote. J'ai regardé le documentaire, mais ça j'ai déjà raconté dans le podcast, sur la première tentative de battre le record du monde du marathon en moins de 2 heures. Et dans les 3 coureurs qu'il y avait, il y avait Kipchoge, puis il y en avait 2 autres, dont un, j'ai perdu son nom, mais je vois très bien, qui était pourtant l'un des meilleurs coureurs champions du monde sur le semi-marathon, etc. Et ben, il ne buvait pas en courant. Et ben, oui. Le résultat, c'est qu'il avait abandonné 3 des 5 marathons sur lesquels il s'était entraîné et aligné, hein, alors que pourtant, il courait le semi, il le courait en moins d'une heure. Tu vois, il a fait un essai en moins d'une heure sur piste. Et en fait, il ne buvait pas. Et le premier conseil que lui a donné les équipes techniques pour le faire progresser, et c'est incroyable, on parle à un champion du monde, hein, juste, on parle à un champion du monde, c'est que lui dire, il faut boire.
Oui. Oui, tout à fait. Ça fait partie. J'allais dire, c'est l'ingrédient du corps le plus important, l'eau.
Oui.
Donc, quand on se déshydrate de 2% ou 3%, c'est déjà, entre guillemets, une catastrophe pour le corps. Alors, quand on va au-delà, et ça va très vite, et une fois que le système est enclenché, c'est extrêmement dur, mais ça, on en parlera sur de l'ultra, parce que c'est probablement l'une des bases qui font que on garde une performance sur de l'ultra aussi. Mais ça, c'est boire, c'est la vie, boire.
Boire, c'est la vie, voilà. Eh bien, écoute, c'est une très belle conclusion, Pascal. Merci beaucoup pour ces conseils. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Justement pour voir la continuité de la progression comme ça. Je te rappelle qu'on peut suivre... Alors, sur Instagram, tu as un compte perso, hein.
Instagram, oui, mais il n'est pas très actif. On va dire sur Facebook.
Ouais,
je suis pas... On se répartit les tâches dans la famille. Hein.
Voilà. Bon, il faut le dire aussi, bien sûr, la famille Apiron, hein, où là, on vous retrouve, bien entendu, avec les produits, etc. Je mettrai, bien entendu, tous les liens dans les notes de l'épisode pour qu'on se retrouve. Et puis, on se retrouve, nous, très bientôt, hein, pour un nouvel épisode où on parlera justement de comment on passe ce cap, qui m'intéressait, puisque ça fait partie de mes objectifs de l'année, bon, qui peut pas se faire, parce que forcément, en béquille, ça va être compliqué de partir sur l'ultra, mais en tout cas, qui sera dans mes objectifs des années à venir, et donc là, bien entendu, j'attendrai tous tes conseils avec impatience, tu vois, pour je mémoriser tout ça, et on va continuer à progresser tous ensemble. Merci beaucoup, en tout cas, Pascal, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode où on parlera, je l'ai dit, hein, de toutes ces notions-là et justement comment on progresse sur des distances supérieures. Merci beaucoup.
De rien, à bientôt.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcast et tous les lecteurs de podcast. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage.
And the site is live.
That we opened a store and need a fast checkout stage.
Thanks, you're all set.
That count it up and ship it around the globe stage.
This one's going to Thailand.
And that, wait, did we just hit 1 million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/listen.